Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et vous le savez, les catholiques français sont privés de messe depuis 15 jours. Ils ont exprimé ce dimanche leur mécontentement, c'est-à-dire tous les cultes qui sont fermés. Alors, sur les églises, les messes sont interdites, mais les églises sont ouvertes. Nous sommes donc avec Marine, qui est professeure à Rambouillet, qui nous donnait son premier avis ce lundi. Marine.
Oui, alors voilà, moi je suis en effet pour un retour assez rapide des messes. Déjà pour une chose, déjà il y a une rupture d'égalité parce que moi le dimanche je peux aller chez Leroy Merlin pour m'acheter une lampe et je ne peux pas, je peux prendre le métro, on peut être très bondé dans le métro, il n'y a rien qui se passe, on a le droit de le faire. En revanche, aller à la messe alors qu'on prend des mesures, on désinfecte en rentrant les mains, on est masqué, on est séparé d'un mètre les uns les autres. Toutes les mesures de sécurité sont prises et là on nous prive de messe. Donc là, d'un point de vue d'égalité, ça va pas. Et puis en plus, après moi en tant que catholique, il faut vraiment qu'on comprenne que la messe c'est pas juste un moment où on se retrouve et on prie ensemble. Nous en tant que catholique, quand on va à la messe, il y a l'Eucharistie. Alors pour les gens ça parle pas trop, mais pour nous l'Eucharistie c'est vraiment la rencontre avec Jésus qui se fait présent réellement. Hein. Corps sans âme et dignité, il est là présent à la messe. Donc pour nous c'est hyper essentiel d'aller à la messe parce que c'est le lieu de la rencontre de notre Sauveur. Donc si on n'y va pas, il nous manque en plus, il y a la communion, c'est la nourriture de l'âme. Hein. Et nous si on n'y va pas, et pour nous c'est comme un besoin vital qui n'est pas assouvi quoi.
C'est ça que effectivement ceux qui ne sont pas catholiques ne connaissent pas ou connaissent mal. Et vous venez de parler de l'Eucharistie, vous avez raison. Je précise hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté que les lieux de culte sont ouverts, mais les messes sont interdites, sauf peut-être d'ailleurs les messes d'enterrement qui sont encore...
Voilà, ben moi j'étais à un enterrement samedi, donc vous voyez, ça tombe bien, j'étais à un enterrement samedi d'une grand-mère, on était 30, masqués, pareil, exactement comme avant l'interdiction des messes, et pareil, on a tout respecté, enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de cluster dans une église pendant une messe catholique, je veux dire, on prend beaucoup trop de mesures, voilà, c'est pas... Personne n'est inconscient hein, quand on va à la messe. On n'est pas là pour attraper des virus. On se tient très correctement là. Tout le monde s'est très bien connu, s'est bien comporté à la messe. Il n'y a pas de voilà, il y a aucun risque en soi.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en 2000 ans de christianisme, jamais aucun pouvoir central n'a interdit les messes dominicales. Alors quand on dit cela, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu non plus d'épidémie de ce type et puis que les sociétés ont changé. Mais même pendant
la
Révolution,
de la France.
Oui. Oui, oui.
Oui, c'est ça.
Même pendant la Révolution française, ni le comité de salut public, ni la Convention, ni les chefs d'État en temps de guerre, ni des rois, ni des empereurs, personne n'a interdit les messes en France. Il y a eu parfois, localement, des messes qui ont été interdites. La Commune de Paris, durant la Révolution, en 93. Mais autrement, ce n'est jamais arrivé qu'un pouvoir central n'interdisent les messes, donc
c'est
assez étonnant hein, de ce point de vue.
Ouais. Alors il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a les messes qui pour nous sont capitales, voilà, et puis il y a aussi le côté, alors ça on n'en parle pas beaucoup, mais vous savez que pour nous, donc à la fin de nos jours, on peut recevoir ce qu'on appelle les derniers sacrements. Donc c'est les secours d'un prêtre qui vient pour entendre la confession et donner la communion.
C'est le sacrement d'idée malade en fait.
On dit le sacrement d'idée malade.
Voilà.
Et en fait, dans certains hôpitaux, certains prêtres n'ont même pas accès aux malades. Alors pour nous, c'est une deuxième violence parce que c'est une dernière volonté d'une personne qui va mourir, qui a besoin de remettre son âme à Dieu, et certains prêtres sont interdits d'hôpital pour ces raisons sanitaires, alors qu'ils pourraient être eux-mêmes masqués, gantés, désinfectés de partout, et même ça, ça leur est interdit. Il faut vraiment comprendre que pour des croyants, c'est une violence inouïe de ne pas pouvoir avoir ce dernier moment avec un homme de Dieu. C'est très violent.
Je partage d'autant plus votre avis que le sacrement des malades dans l'église de Rome est l'un des plus beaux sacrements. On appelait ça l'extrême onction jadis.
Exactement.
Mais le sacrement des malades est un moment extrêmement particulier. Vous avez bien raison de le dire parce qu'on en parle assez peu dans
sociétés
séculaires. Je suis d'accord.
Voilà, et on a des parents qui ont le cancer ou quoi et qui explosent en larmes et qui m'ont
bien
dit,
sûr.
Encore il n'y a même pas une semaine, papa ne peut pas avoir le secours d'un prêtre et c'est d'une violence inouïe pour la famille.
Inouïe.
Alors pour les gens qui n'ont pas la foi, c'est pas grand chose, mais pour quelqu'un qui a la foi, c'est extrêmement violent. Et donc voilà, essayez de faire quelque chose au moins pour que les prêtres puissent aller voir les malades et que nous, en tant que catholiques, nous puissions nous retrouver. Et encore une fois, nous serons très prudents. On n'est pas inconscient et on n'est pas là. Voilà. On est obéissant, mais moi je comprends qu'il y en a là qui commencent un petit peu à faire entendre leur voix le week-end parce que ça, voilà, il faut que ça bouge quoi.
Alors Philippe est avec nous, il est opposé à ce que vous dites, Philippe, et peut-être qu'on va entamer le débat juste après la première publicité. Je salue Greg Caranoni qui est là aujourd'hui en régie et qui réalise cette émission. Bonjour cher Grégory.
Bonjour à tous.
Je salue également Laurent Tessier qui est loin de nous mais prêt par la parole.
Bonjour à tous.
Et il est là également. Et je salue la publicité qui arrive. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier à 13h09 pour un premier passage. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il autoriser les messes pour l'église catholique? C'est la question que nous vous posons sur la page Facebook. Et bien réaction de William à l'instant. Le confinement n'empêche pas les gens de prier. Pour Lily, la religion doit rester à la maison. Même avis pour Jean-Claude, la prière est un acte personnel et individuel. Quel est le besoin, l'utilité d'organiser des messes? On peut prier tout seul à l'église, hein, rajoute encore Jean-Michel. Thierry, lui, se dit dégoûté par certains comportements. Pensons à nos soignants qui se battent au quotidien et laissez-nous les messes, écrit Karine. On en a besoin pendant ce confinement, on a besoin d'être ensemble.
Non mais c'est intéressant parce que effectivement, si on n'est pas catholique, on a peut-être du mal à comprendre, et Marine en parlait très bien, de ce qu'est l'Eucharistie. Combien aller à la messe, c'est pas prier tout seul et c'est pas simplement un rassemblement. Mais Philippe va pouvoir lui apporter la contradiction, puisque Philippe habite dans le Nord et a priori, Philippe, vous êtes opposé à ces cérémonies et vous avez entendu Marine. Bonjour Philippe.
Bonjour tout le monde. Oui, j'ai entendu Marine. Alors juste une précision, je suis complètement d'accord avec elle. Pour les personnes qui sont en fin de vie, on a besoin, moi je suis catholique donc, on a besoin de donner sacrement. C'est un point sur lequel je ne reviens pas. Par contre, on est en temps de crise. On a un genou à terre, on a un gouvernement qui nous donne des consignes, qu'on soit d'accord ou pas. Je pense que on se doit d'être solidaire. La solidarité, c'est une valeur de la chrétienté, c'est une valeur des catholiques. Là, j'aurais jamais imaginé que nous puissions avoir une polémique en tant que catholiques, parce que la prière, elle est intérieure en cas de crise. Si on a notre liberté à tout à chacun, qu'on aille à la messe, ce qui est tout à fait normal pour communier avec le corps du Christ, j'entends bien. Mais là, on a un problème sur la planète. On nous demande quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je respecte parce que il faut être plus solidaire que chrétien. L'âme, elle nous appartient. Moi, je prie tous les jours, mais chez moi, j'aimerais aller à l'église. Je ne peux pas parce que je veux être solidaire de mon gouvernement. Et je ne suis pas toujours d'accord. Et je réglerai mes comptes avec mon gouvernement quand tout ça sera fini. Parce que, par exemple, pourquoi on dit à le roi Merlin, on peut y aller, tout ça? J'entends tout ça. Je suis d'accord. Simplement, je pense qu'on a un genou à terre. Nous devons être...
Non, mais Philippe, Marine va vous répondre. Mais ça pose, et pour une société, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner que le roi Merlin soit considéré comme essentiel et que l'Église ne le soit pas. C'est ça que ça pose.
J'ai une réponse.
Mais je pourrais dire la même chose pour une autre religion, bien évidemment.
Non, mais bien sûr,
c'est le rapport à la religion pour tout à chacun.
Alors voilà, moi je pense avoir la réponse. Je pense que l'Église, c'est à interne. Elle est à nous, notre foi. C'est pas nécessaire. Donc on peut fermer pour limiter. Le roi Merlin, c'est de l'économie, c'est des emplois. Donc je pense que
vous répondez pas à ma question. C'est que vous considérez que l'économie c'est essentiel et la spiritualité ne l'est pas. Mais Marine vous répond.
Non. Voilà. Vous avez dit, en ce moment, il faut être plus solidaire que chrétien. Moi, je pense que si on est solidaire, c'est justement parce que nous sommes chrétiens. La solidarité, c'est le fruit même de notre foi. Ensuite, vous dites que c'est pas une nécessité absolue. Tout ça, c'est une question de point de vue. Pour moi, le Christ, l'Eucharistie est mon unique nécessaire. C'est mon nécessaire. Je veux pas l'imposer à la terre entière. Hein. Je veux pas donner l'impression d'être une
Marine, j'ai entendu, mais c'est parce que ce que j'aime pas, c'est que vous dites nous, parce que moi je suis un chrétien, je suis un catholique, donc moi je ne suis pas vous. Je ne dis pas nous parce que il y a des chrétiens comme moi, il y a des catholiques comme moi qui on ravale notre salive et on a un genou à terre, on ne communie pas avec le corps du Christ. Ben c'est pas grave, on parle autrement. J'ai pas apprécié sans vouloir. Polémique ou vous embêter, je n'ai pas apprécié que vous disiez nous, parce que je suis un catholique, mais je ne m'entendais pas dans votre discours.
Oui,
je sais
comprends.
Que c'est important. Je sais que c'est important.
Je comprends, mais voilà, je disais nous pour les personnes qui, voilà, parce que nous on parle, évidemment c'est devenu un sujet avec lequel on en parle entre nous, et c'est un sujet qui pour certains, et je vous dis surtout pour ceux qui ont des personnes souffrantes autour d'eux, c'est un sujet qui est devenu extrêmement douloureux.
Ah,
il faut vraiment qu'on nous entende.
Je suis d'accord avec vous. Là, je peux rien dire pour les personnes en fin de vie, mais vraiment, là, je suis en communion avec vous à ce niveau-là. Simplement, écoutez, c'est pas facile pour le gouvernement aujourd'hui, qu'on soit de droite, de gauche. Je veux pas parler de politique. Je dis simplement que on nous a demandé quelque chose. Nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. Il faudrait, alors, la communion. Je peux comprendre que dans la hiérarchie, pour vous, c'est ultra important. Je l'entends. Je me permettrai même pas de dire quoi que ce soit. Simplement, soyez forte pendant ce moment. Soyez forte. Communier toute seule, parce que on doit être solidaire. Et le roi Merlin, j'entends, moi aussi je peste, mais je me dis qu'en même temps, si on ferme tout, et ben l'économie meurt et on meurt tous.
Oui, mais alors... si vous me permettez, Philippe, pardonnez-moi de revenir à ça. Ça pose dans une société ce qui est essentiel. Et vous, au fond, vous considérez, c'est même ça qui peut être paradoxal, puisque vous êtes catholique, que la croyance. La religion n'est pas quelque chose d'essentiel. Vous avez le droit d'ailleurs. Mais et vous, oui, considérez alors, que l'économie est achetée chez. Il y a acheter des biens. Vous avez cité le roi Merlin, j'aurais pu dire Castorama, hein, de la même manière.
Pascal,
donc c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est...
Alors Pascal, c'est
pas. De la même manière que la librairie, c'est pas. On considère que c'est pas un bien essentiel. Alors que moi, je considère que c'est un bien essentiel. C'est la nourriture de l'âme.
Je me suis mal expliqué. Je dis simplement que la nourriture de l'âme, elle n'est pas palpable. Elle appartient à chacun. Donc ça n'est pas vital en ce sens où on va être meurtri, mais ça n'a pas d'incidence sur la vie, sur notre vie sociale. Je peux rester pendant deux mois sans aller à la messe. À la fin, je ne vais pas mourir. Par contre, Benoît qui ne peut plus aller travailler pendant deux mois peut mourir de faim et ne plus avoir de travail. C'est simplement que on mélange la spiritualité avec le reste. Un livre, quelqu'un, la nourriture de l'âme, je l'entends, mais je dis simplement que on est en temps de crise, on doit être solidaire. Et ben si vous n'avez plus rien à lire, je sais que c'est débile, mon discours il est peut-être difficile à entendre, mais je dis simplement il faut ronger son frein, faire autre chose, parce que il faut faire des efforts pour comprendre que des endroits qui économiquement sont importants pour notre équilibre restent ouverts, même si je suis. Mais c'est pas juste. Je ne dis pas que c'est juste.
Oui,
je
j'entends.
Dis que je comprends.
Eh ben merci Marine et Philippe. Alors je le précise, parce que je le dis très souvent, mais tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques.
Puisque voilà, la spécificité de l'Eucharistie chez les catholiques. Hein,
voilà,
c'est vraiment une vraie spécificité.
Voilà, donc vous avez plus d'un milliard de catholiques, mais vous avez 283 millions d'orthodoxes, vous avez 895 millions de protestants, vous avez des anglicans, vous avez des mormons, vous avez même les témoins de Jéhovah qui appartiennent à la chrétienté. Donc le monde chrétien, effectivement, est assez important. Les gens pensent toujours qu'il n'y a pas que les catholiques, hein, bien évidemment. Donc c'était intéressant d'avoir cet échange entre Marine et Philippe. Et on va poursuivre, évidemment, notre discussion. Il est 13h16, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Amine est là et Amine nous a contacté par... Oui, Amine.
Oui.
Amine, vous nous avez contacté via Twitter parce qu'on peut appeler au 3210 et tomber sur Pierre-Louis, sur Cyranouche, sur Olivier ou sur Evan. Mais on peut également nous contacter par Twitter, ce que vous avez fait. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est votre sentiment sur notre débat du jour ? Est-ce qu'il faut interdire les messes ou est-ce qu'il faut les autoriser de nouveau, les messes catholiques ?
Mais moi, je crois d'abord que le coronavirus, qui est une épidémie, les épidémies ne sont pas étrangères à la chrétienté. Des trois évangiles, Luc, Marc et Matthieu, Luc est le seul à parler justement de peste par ailleurs. Et moi, je crois que les chrétiens ont toujours eu un rôle à jouer dans les luttes, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans les luttes contre les épidémies. Et aujourd'hui, on demande justement à ces chrétiens de se retirer et de laisser place aux autorités sanitaires sans eux. Et aujourd'hui, la demande, et j'entendais tout à l'heure cette professeure qui nous disait, c'est compliqué pour les catholiques de devoir se retirer, de ne pas pouvoir non plus aller à la messe, mais c'est le cas aussi pour l'ensemble des religieux, c'est le principe même du confinement. On ne peut pas demander, par exemple, à un prêtre d'aller à l'hôpital parce que ça ne ferait que alourdir la tâche, justement, des soignants qui, aujourd'hui, sont mobilisés, ils sont même surchargés, et on ne pourrait pas leur rajouter une nouvelle tâche dans un contexte de crise sanitaire où on a de plus en plus de personnes qui rentrent dans les hôpitaux et dans les unités de réanimation. Alors moi, je crois qu'il faut, pour le mois de novembre, il faut vraiment faire ce sacrifice et rappeler ce principe essentiel qui est le sacrifice pour le mois de novembre, pour que tous ensemble, chrétiens ou non chrétiens, pour les personnes qui croient ou qui ne croient pas, puissent se réunir, notamment pour les fêtes de Noël. C'est ça l'objectif, et je pense que c'est ça qu'il faut viser. C'est tous confinés pour le mois de novembre, mais retrouvons-nous ensemble, et je l'espère, pour le mois de décembre.
Bon, bah écoutez, Amine, c'est un avis qui peut s'entendre. Nous sommes avec l'abbé Pierre Amard, qui est prêtre du diocèse de Versailles.
Bonjour, bonjour Pascal Pro.
Bonjour monsieur l'abbé.
Écoutez, j'écoute Amine avec intérêt, mais j'ai écouté aussi les autres interlocuteurs, Marine, Philippe. Amine, je voulais juste vous dire qu'on va déjà à l'hôpital, hein, nous les prêtres. Il y a des aumôniers d'hôpitaux qui font un travail extraordinaire de soutien, qui viennent porter l'espérance, qui viennent porter l'espoir, hein, auprès de ceux qui sont malades et puis de ceux qui les soignent. Donc on continue d'y aller, hein, donc je suis désolé de vous le dire, mais ça fait beaucoup de bien. Et même les soignants reconnaissent que, ben, dans un autre ordre, nous les prêtres, on fait du bien aussi à ceux qui souffrent. Ensuite, sur votre débat, Pascal Pro, moi, je crois que vous posez la question, elle est très juste. C'est, en fait, est-ce que c'est essentiel ou pas?
Bien
c'est
sûr.
Notre rapport à la
c'est
religion.
Ça, exactement.
En fait, la question, elle est là. Mais il me semble, Pascal Pro, que Jean Castex a répondu avant vous. C'était la semaine dernière à Nice, lorsque, vous savez, pour la cérémonie d'hommage là, pour les victimes, hein, de l'attentat, il a dit que la liberté de culte, c'était une liberté fondamentale. Et donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si M. Castex nous écoute, hein, à l'heure du café.
Tous les jours, il nous écoute. Il m'appelle juste après l'émission pour avoir le téléphone des gens qui sont intervenus, pour prolonger le débat.
Bon, mais faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On est responsable depuis le début. Dans nos églises, on dit la messe avec des masques depuis très longtemps. Il y a du gel à l'entrée des églises. On pratique les distances. On est responsable, on met des jauges, s'il faut continuer à les mettre, on les mettra. Donc, vous savez, il y a des lieux, et vous l'avez dit vous-même en citant des magasins, il y a des lieux d'interaction sociale qui sont bien plus risqués.
Non,
je pense aux grandes surfaces que vous avez mentionnées, je pense au transport, je pense à l'école. Et je crois aussi, mais c'est un peu dur ce que je vais dire, que interdire la messe, on l'a vu d'ailleurs avec tous ces jeunes, parce que c'est des jeunes, hein, qui manifestent hier et puis dimanche dernier, on le voit bien, c'est des jeunes chrétiens, des jeunes catholiques. Interdire la messe pour eux, c'est interdire l'espérance.
Et qu'il n'y ait pas de malentendus sur ceux qui manifestent, ce ne sont pas des mouvements intégristes qui sont sur les parvis. C'est important de le dire, parce que moi je trouve que souvent les catholiques en France sont caricaturés.
Mais pardonnez-moi, ce n'est pas la question.
C'est pas la question, ça peut l'être, et notamment dans les médias. Je l'avais vu régulièrement, on se moque avec légèreté parfois des catholiques, et très rapidement on les renvoie à la case intégriste pour les disqualifier. Donc c'est important de dire que ceux qui ont manifesté hier, ce n'étaient pas des adorateurs de Monseigneur Lefebvre, si j'ose dire.
Non, pas du tout. Mais monsieur Pascal,
c'est important de le dire.
Aujourd'hui on cède à l'ensemble des revendications. Si vous acceptez aujourd'hui que les catholiques reprennent les messes, vous devez accepter la même chose pour l'ensemble des cultes. Donc
évidemment,
vous remettez en cause le principe du confinement.
Non, évidemment, il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il se trouve que la messe, pour les catholiques, est différente de l'exercice de sa religion pour les autres, justement, religions. Mais je suis à 100% d'accord avec vous. Il n'y a même pas de discussion.
Mais moi aussi, parce que, en fait, quand un pays souffre, les lieux de résilience, que sont les églises ou les temples ou la synagogue ou la mosquée, ces lieux où on vient reprendre des forces, c'est très important. On le voit bien, la météo est pourrie aujourd'hui, le moral des Français se dégrade. Où est-ce qu'on peut reprendre des forces, un peu d'espérance? Mais c'est évidemment dans les églises, évidemment. Et pas que dans les églises, évidemment. Mais il y a des lieux où il y a de la verticalité, où il y a de la respérance. Moi, je revendique pas un droit, vous savez, pour ma communauté plus qu'une autre. Je crois qu'il y a des endroits où on a besoin de la prière communautaire, communicative, pour justement pas étouffer les signes d'espérance à l'heure où notre pays souffre terriblement, évidemment.
Ben merci, monsieur l'abbé. Merci, Amine, également.
Merci à vous.
Henri est là, alors je voudrais qu'on parle d'autre chose, parce que comme on va beaucoup en parler entre 14h et 14h30, je voudrais pas qu'on fasse une heure et demie uniquement sur ce thème, et notamment si vous participez à des fêtes. Alors, et que vous avez le courage, pourquoi pas, de nous appeler si vous participez à des fêtes qui sont interdites aujourd'hui. Si vous étiez, par exemple, un de ces 400 personnes qui se sont rassemblées dans la nuit de vendredi à samedi à Joinville-le-Pont. Pompon, vous connaissez cette chanson, Greg Caranoni?
Oui, bien sûr.
Bon, à Joinville-le-Pont, Et ben là, il y a eu une fête à Joinville-le-Pont. Donc, si vous étiez parmi les 400, si vous étiez un voisin, appelez-nous, je vous en prie, parce que j'ai envie d'entendre votre témoignage. Henri est là. Bonjour, Henri. Oui.
Bonjour, Pascal Praud. Bonjour à tous.
Et merci. Vous êtes catholique ?
Absolument, tout à fait.
Vous allez à la messe tous les dimanches ?
Et plus, si possible.
Donc, vous faites partie. Aujourd'hui, il y a combien de catholiques pratiquants ? Moins de 5 millions en France ?
Écoutez, là, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas. C'est peut-être vous qui allez pouvoir.
Ce sont les chiffres qu'on donne. Et il faut savoir que toute la France allait à l'église, quand je dis toute la France, quasiment. Là, vous avez 60 ans. Quand vous êtes né en 1960, Henri...
59, ne me vieillissez pas trop, s'il vous plaît.
Voilà, mais quand vous êtes né en 1961, alors, il devait avoir plus de 50% des Français à l'époque qui allaient, qui pratiquaient. Hein,
Oui. Alors, je voulais intervenir sur... Je reprends ce que disait Philippe tout à l'heure, où il disait qu'il n'y a pas d'incidence sur la vie sociale, le fait de ne pas aller à l'église. Et pour beaucoup de catholiques, pas tous, semble-t-il, mais le corps a besoin de nourriture terrestre, mais l'âme a besoin de la messe et donc de la communion pour vivre aussi. Et seuls les prêtres peuvent célébrer la messe. Et c'est pour cela que c'est vital pour un catholique d'assister à cette messe. Et vous voyez, pour moi comme, et pour d'autres, le manque de messe, c'est comme une anorexie spirituelle. Pourquoi anorexie ? Parce que un anorexique, il pense qu'il n'a pas besoin de nourriture, mais en fait, il dépérit s'il ne nourrit pas. Et bien pour les catholiques, enfin pour certains catholiques, dont moi, c'est identique. Certains pensent que on peut se passer de messe, mais en fait, on a besoin de cette nourriture de l'âme. Et si on ne l'a pas, bien on meurt petit à petit spirituellement. Non pas que on s'affadit. Alors, vous savez, quand on entend certains journalistes qui disent que l'on peut bien attendre la fin du confinement, ça me laisse quand même pantois, parce que est-ce que l'on peut attendre la fin du confinement pour aller faire des courses pour se nourrir? Eh bien non. Donc, seul le prêtre peut célébrer la messe et donc consacrer pour le corps du Christ et donc nourrir notre foi, qui est la source l'aboutissement de notre foi. Et donc, sans la messe, sans l'Eucharistie, eh bien, on devient anorexique.
Eh bien, vous l'avez très bien expliqué, effectivement. On va marquer une nouvelle page de publicité. C'est pas le jour du Seigneur hein, aujourd'hui, c'est les auditeurs ont la parole, mais c'est vrai que on parle assez peu d'ailleurs de la religion catholique, assez peu en général des religions d'ailleurs, c'est toujours des sujets délicats d'ailleurs à aborder. C'est pour ça que c'est intéressant d'entendre les catholiques français depuis une petite demi-heure, même si je veux le répète, je voudrais qu'on parle d'autre chose peut-être, mais je vois que vous appelez massivement sur ce sujet. Les autres sujets du jour, c'est faut-il mettre en place de lourdes sanctions pour ceux qui ne respectent pas le confinement ? Et puis le nouveau diagnostic de cas de Covid, il est en baisse. Donc, est-ce qu'il faut être optimiste pour la suite ? Est-ce qu'on crie déjà victoire ? Est-ce qu'il faut alléger le confinement ? Bref, les questions habituelles pour le coup. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, entre 14h et 14h30, on parlera évidemment des messes.
Les catholiques étaient plusieurs milliers à se rassembler hier dans le pays, une mobilisation pour demander l'autorisation des messes.
Ce qu'on regrette vraiment, c'est que ceux qui nous gouvernent veulent nous gouverner alors qu'ils ne savent pas ce qu'est la messe pour nous. Ce n'est pas un lieu de rassemblement, c'est un lieu dont nous avons besoin.
Ce que je comprends pas, c'est que je suis allé faire mes courses hier dans un magasin de bricolage et il y avait plus de place sur le parking, des gens partout agglutinés devant les caisses, etc. Et qu'aujourd'hui, on peut pas se retrouver dans une église.
Une rencontre est prévue cet après-midi avec les représentants des cultes. Le Premier ministre Jean Castex participera. La classe politique s'est bien emparée du sujet. Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité hier du grand jury sur RTL avec Benjamin Sportouche.
Moi, je souhaite que cette position soit revue. Nous arrivons dans un temps important, notamment
notamment pour la communauté chrétienne.
Mais vous souhaitez que ces messes reprennent, si je vous entends bien.
À la condition
bien.
Que les conditions sanitaires oui. soient respectées. Mais je pense qu'on est là sur une liberté fondamentale et que le gouvernement doit y être extrêmement attentif.
Et ça doit s'appliquer à toutes les religions.
Bien sûr.
Alors, faut-il autoriser les messes? Est-ce pour vous un besoin vital essentiel? Le recueillement individuel à l'église est-il tout simplement suffisant? Faut-il plutôt rediffuser les cérémonies? Nous serons à 14h avec Vincent Némon, le porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Vous rediffusez les cérémonies, c'est pas un match de foot. C'est quoi rediffuser, Laurent? Diffuser en direct?
Diffuser en visio les cérémonies.
Ah exactement. Oui, diffuser. Je croyais que vous vouliez rediffuser une messe d'il y a quelques années. Ah c'est pour ça. Diffuser, pensez. Je vois que Greg Caradoni a de l'esprit, l'esprit saint sans doute, avec cette petite musique de La vie est un long fleuve tranquille. Jésus revient parmi les tiens. Alors, on marque une parenthèse parce que je vous avais dit qu'on parlerait d'autre chose et on va parler de la fête. Ces fêtes qui ont lieu en dehors de tous les règlements. On est avec Lionel qui est menuisier à Mulhouse. Bonjour.
Oui, monsieur Pro, bonjour.
Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, je rappelle qu'à Joinville-le-Pont, entre 300 et 400 personnes s'étaient rassemblées. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce qu'il faut, c'est de la provocation? Est-ce qu'il faut les punir, Lionel?
Alors, c'est les quatre. C'est les quatre. Alors, je vous rappelle quand même que j'habite Mulhouse, là où était le premier foyer conséquent, hein, qui a amené la France dans le confinement. Donc, c'était bien évidemment lors d'un rassemblement religieux. Alors, maintenant, on a quand même... des personnes qui s'amusent comme vendredi soir à faire des rassemblements. Donc, il n'y a pas que les organisateurs, il y a tous les participants condamnés. On a quand même un ordre du président, on est dans une situation grave, où on a un confinement qui n'est pas vraiment un confinement comme le premier. Et si effectivement, on continue tous à se rassembler, on ne va pas y arriver.
Non mais là c'est tout à fait étonnant, manifestement on est quasiment dans une provocation, 300 ou 400 personnes, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Si vous êtes voisin par exemple, vous appelez, vous dénoncez, parce que c'est ça qui est toujours délicat.
Alors il ne faut pas hésiter à faire de la délation, moi je l'ai fait la semaine dernière, on a un nouveau petit restaurant de tacos qui est ouvert, c'était tout et n'importe quoi, j'ai appelé la gendarmerie qui était à côté, ils ne se sont pas déplacés. Bon.
C'est-à-dire voilà. Qu'il y a un resto qui est ouvert à Mulhouse.
Qui a ouvert la semaine dernière, qui a ouvert.
Mais un restaurant qui ne fait pas du click and collect, un restaurant dans lequel on peut s'asseoir, rentrer, déjeuner ou dîner.
Ah ben, les deux premiers soirs, c'est ce qui s'est passé, à emporter sur place.
Et il y avait combien de personnes à l'intérieur du restaurant?
Il y avait même la queue dehors, les gens mangeaient même dehors.
Ben ça, mais ils ont peut-être le droit de manger dehors s'ils ont pris en click and collect, c'est pas la même chose, mais à l'intérieur, vous en avez vu?
Il y avait les deux. Il y avait les deux, monsieur Pro, oui, bien sûr.
Et vous avez appelé les gendarmes?
Oui.
Et les gendarmes ne sont pas...
Il n'y a pas de fait, non.
Alors ça, c'est... Mais alors, comment vous savez que les gendarmes ne sont pas passés? Parce que c'est vos voisins, vous voyez?
Bah oui.
Vous voyez le restaurant de votre fenêtre?
C'est ça.
Et le restaurant marche toujours, là? Il fonctionne quand il est ouvert? Il est ouvert, par exemple, à 13h34, il y a des gens qui sont en train de déjeuner dans un restaurant en France.
Je ne suis pas chez moi, là. Là, je ne peux pas vous le dire. Mais les deux premiers jours, oui, lors de son ouverture. Bah,
écoutez, vous m'étonnez, Lionel, mais la difficulté, c'est toujours de... Est-ce qu'on doit prendre son téléphone? C'est ça qui est compliqué, mais bon.
C'est pas la difficulté. Après, ce n'est pas vraiment de la délation, c'est quand même une responsabilité de notre part.
Bon, merci Lionel de ce témoignage. Merci. Alors Thierry est là également, Thierry, sur ce sujet.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup. Merci. Ça vous choque, 300 personnes qui font la fête ensemble?
Oui, ramener comme ça à brûle-pourpoint, oui, c'est choquant. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on parle de celle-ci, parce qu'elle est médiatisée. Mais il y a combien de fêtes qui se sont faites ce week-end ou dans les semaines passées à 20, 30 personnes et on n'en a pas entendu parler. En fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, je suis vraiment agacé, c'est qu'on en est quasiment à 3 semaines de pseudo-confinement. Et 3 semaines après le début, on en est encore à parler. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? C'est quand même dingue. Alors que si on avait respecté à la lettre pendant 15 jours, qu'on respectait comme il faut, on réduisait l'échéance et on repartait. Là, on en est
on
encore à savoir.
On sait ce qu'on doit faire. Je comprends pas. On sait ce qu'on
mais
doit
non,
faire et on
non,
sait ce qu'on ne doit
non,
pas faire.
Parce qu'aujourd'hui, on est toujours. Bien sûr qu'on le sait. À la base, on le sait. Mais quand vous voyez que le gouvernement revient sur certaines décisions, alors qu'est-ce que c'est un produit essentiel? Qu'est-ce que ça n'en est pas un? Les grandes surfaces, c'est le fil rouge conducteur depuis le début
non,
de
mais il s'est adapté sur les grandes surfaces. pour concurrence déloyale.
Pascal, je peux vous poser une question?
Oui.
À quand ça remonte la dernière fois que vous avez été dans une grande surface?
La semaine dernière, moi j'adore les grandes surfaces, donc ne me prenez pas là-dessus, je suis allé, alors moi j'adore ça.
Je sais pas chez vous, mais de partout, alors quand on stigmatise les jeunes, moi je peux vous garantir, pour être allé faire des courses, pour réellement faire des courses la semaine dernière, c'est pas des jeunes qui ont une grande surface.
Non, mais les gens sont prudents, je vous assure, j'y étais, alors c'est une très grande surface, les gens étaient tous masqués.
Donc si on revient dans le sujet initial qui est le domaine privé, c'est là où manque la prudence, parce que dans le domaine privé les gens
ils n'ont pas de masque, alors que dans la grande surface ils ont un masque.
Bien sûr, et après il y a le masque, mais après il y a des gestes naturels qui sont dans la sphère privée. Vous prenez une petite fête familiale de 15 personnes, pas vu, pas pris, d'accord ?
Il ne faut pas la faire. C'est pas prudent, je suis d'accord avec vous, c'est pas prudent.
Mamie, elle va arriver, la petite fille qu'elle n'a pas vu depuis 6 mois, vous ne la tiendrez pas à 2 mètres, la mamie, je suis désolé.
Pardonnez-moi, mais là aussi, les gens sont responsables. J'entends beaucoup de gens passer.
On est d'accord, mais dans l'élan.
Parce que parfois, ils mettent en place. Situation dans laquelle ils ne peuvent pas être pris par l'élan, comme vous dites. Par exemple, à Noël, moi, j'entends beaucoup de gens de 80 ans, passé 80 ans, qui disent « Je ne recevrai pas mes petits-enfants. Je ne recevrai pas mes petits-enfants. » Je l'entends.
Ça, c'est ce qui devrait se passer, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Les gens,
quand ils commencent à avoir peur pour eux, ils font gaffe, si vous me permettez cette expression triviale.
Si on fait le tour, c'est vraiment du pas vu, pas pris, quoi.
Pour les jeunes, vous avez raison. Non, mais pour les jeunes, je vais vous dire, les jeunes, alors là encore, faut faire attention à généraliser, mais en gros, c'est comment je vais pouvoir voir mes potes, voilà, quand même malgré le confinement. Voilà, c'est votre question.
Je vous retourne la réflexion sur les gens plus âgés.
Pour les personnes âgées qui se savent en difficulté, elles n'ont pas envie de terminer au cimetière.
Comment voir mes enfants et mes petits-enfants, sans être pris?
Écoutez, en tout cas, c'est possible.
C'est ma vision des choses.
Oui, c'est possible. J'ai pas de preuves. J'ai pas de stats.
En fait, on se regarde tous le nombril et tant qu'il se passe rien chez nous, on se sent pas concerné.
Bon, est-ce qu'on a une petite chanson peut-être pour saluer cette fête qui a eu lieu à Joinville-le-Pont?
Avec plaisir. En tout cas, vous adorez les grandes surfaces, ça, c'est.
À Joinville-le-Pont.
À
Joinville-le-Pont, pom pom, tous de nous irons. Oh, oh. C'est
génial à Joinville-le-Pont, Bourville. Alors, cher ami, quand je voyageais beaucoup, quand j'allais dans le foot, j'allais dans deux endroits, les cimetières. Je ne sais pas pourquoi, j'adorais aller dans les cimetières, à Moscou, à Venise, pardon, et les grandes surfaces. Vous allez dans une grande surface à l'étranger et vous avez un pays. C'est formidable, c'est mieux qu'un musée. C'est pour ça que j'adore les grandes surfaces, cher Greg.
Très bien, je suis heureux de l'apprendre.
Je vous assure, j'adore ça. Vraiment, je peux rester des heures dans une grande surface.
Y compris en France?
Ah, ça, c'est mon plaisir. Chacun a ses plaisirs, moi j'adore. Vous aimez pas? Non mais sérieusement, vous n'aimez pas vous balader dans des grandes surfaces? Il n'y a pas plus joyeux qu'une grande surface?
C'est souvent associé à... À un moment un peu compliqué où il y a du monde, on galère, etc.
Faut pas aller, effectivement, quand il y a un monde fou, et puis il faut... Mais c'est agréable.
Très bien.
Je regarde les prix, tout.
13h30... Faire un peu de pub pour les grandes surfaces?
Avec mon petit chariot. 13h39. Mais c'est vrai, ce que je vous jure.
Je vous crois.
Je vous donne ma parole d'honneur. 13h39.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors nous revenons à ce sujet de la messe. Faut-il autoriser les messes pour l'église de Rome? Est-ce un besoin vital pour vous, essentiel? Que représente pour vous d'aller à la messe? Nous sommes avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Pascal.
Et merci. Vous êtes catholique Jean-Marie?
Alors, j'étais catholique, j'étais croyant, j'étais même pratiquant. Et puis, des aléas de la vie ont fait que je suis devenu un petit peu moins. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours une petite pincée. Mais je ne suis plus véritablement croyant comme je l'ai cru et je l'ai pratiqué il y a quelques années. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu choqué par ce débat. Pourquoi je suis choqué par ce débat? Parce que une messe, pour moi, c'est un rassemblement. Un rassemblement, quand il y a des rassemblements, on dit que c'est choquant. Par contre, aller à la messe, c'est pas choquant. Et ça me perturbe un petit peu, si vous voulez. On peut très bien prier, les églises sont ouvertes. Pour ceux qui veulent pratiquer, ben le dimanche matin, il y a la chance d'avoir la messe sur Antenne 2. J'ai ma mère qui a 88 ans, qui est très pratiquante, très croyante, qui elle tous les dimanches matins.
Quand vous regardez Antenne 2, c'est Paul VI qui fait la messe ou c'est...
Oh. Pardon.
Non, parce que vous dites Antenne 2, sympa. C'est pour ça.
France 2, pardon.
Mais non, mais Jean-Marie, je vous taquine. Je vous taquine. Et c'est Léon Zitron.
Monsieur Bonfoy.
Oui, oui, oui.
Non, mais je suis comme vous. En plus, je dis Antenne 2. Moi. Je suis comme vous.
Vous voyez, Jean-Marie. On est des anciens, tout à fait.
Exactement. Hein. Non, mais c'est. Alors, effectivement, le jour du Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est une manière de passer son temps, de passer une messe, plus exactement. Mais je voulais qu'Amandine donne son avis, Jean-Marie, parce que Amandine, je suis en train de lire votre fiche et je lis « Si on autorise la messe, pourquoi ne pas autoriser certains à faire du sport comme le tennis ?» Et je n'ai pas saisi le rapport, Amandine.
Bah, en fait, si on autorise si on autorise les gens à aller à la messe, ils sont beaucoup dans un lieu clos. Alors que sur un terrain de tennis, le terrain de tennis fait 600 mètres carrés et on n'est que deux.
Et on n'a pas le droit de jouer au tennis aujourd'hui.
Et on n'a pas le droit de jouer au tennis alors qu'on peut réserver. Dans mon club en tout cas, qui je pense est la plupart dans tous les clubs de France, on est obligé de réserver pour pouvoir accéder au club en dehors des cours. On est obligé de réserver notre créneau horaire.
Ah, on peut y aller quand même.
Ah non, là, à l'heure actuelle, là, hors confinement, bien, je parle hors confinement. Avec le confinement, les salles sont fermées à clé, les badges ne passent même plus.
Non, mais c'est fou. On ne peut pas jouer au tennis en France, on est deux. Non, mais c'est pour ça que c'est ridicule. Vous avez raison, mais vous avez raison.
C'est ça. Alors, pourquoi alors, si on autorise la messe, ce n'est pas encore le cas, ça veut dire qu'on doit remettre le confinement en cause. Puisqu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites et où on est beaucoup moins.
Il faut faire et la messe et le tennis, Jean-Marie. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a convaincu Jean-Marie? Non, mais le cours de tennis. C'est pour ça que les exemples, il n'y a que les exemples qui peuvent nous départager. Fermer des cours de tennis, même pour les enfants, je le dis sans arrêt, mais les gosses font plus de sport tous les week-ends. Les enfants sont devant des écrans samedi et dimanche. Ils ont le droit d'aller à l'école, mais le samedi et le dimanche, tous les clubs amateurs de sport sont fermés. Franchement.
Et on est dans une période où il ne fait pas beau en ce moment. On est dans une période de l'année où les week-ends sont catastrophique.
Oui, donc ils sont devant les écrans toute la journée. Voilà.
Ouais, j'ai la malchance d'habiter en Bretagne. On sort une heure. On est sorti une heure ce week-end parce que sinon.
Non, mais Amandine, vous êtes sérieuse de ce que vous avez dit. Vous avez dit que j'ai la malchance d'habiter en Bretagne.
Oui, parce qu'il pleut beaucoup plus qu'ailleurs en Bretagne.
Mais Julien Cellier va vous appeler dès demain matin. Et vous n'avez pas honte de dire ça. Vous avez une chance d'habiter en Bretagne.
Oui, j'ai la chance d'avoir un jardin et j'ai la chance.
Mais vous habitez où dans les Côtes d'Armor?
À côté de Guingamp.
Mais à Lamballe?
Non, à côté de Guingamp, donc encore plus dans le nord.
Mais c'est merveilleux, vous avez...
Non, mais on a de la chance, mais on est dans une période...
Mais vous êtes bretonne?
Les week-ends sont merdiques.
Oui, mais vous n'aimez pas les embruns, la couleur du ciel, la pluie, c'est ça?
Mais quand il pleut tout le week-end, qu'est-ce qu'on fait faire à des enfants dehors quand il pleut 90% du week-end?
Non, mais là, Amandine, vous n'êtes pas sérieuse. Là, vous m'avez fait beaucoup de peine. Vous avez.
Moi, ça me dérange
mon
pas.
Mon cœur de Breton saigne.
Moi, ça me dérange pas de sortir sous la pluie.
Mais c'est merveilleux de sortir sous la pluie. C'est ça qui est formidable, de se balader sous la pluie. C'est merveilleux. Jouer au football sous la pluie, c'est formidable.
Mais malheureusement, ils n'aiment pas ça.
Qui n'aime pas ça?
Mes enfants.
Mais comment ils s'appellent?
Aaron et Violette.
Ouais, ils sont en sucre.
Non, bien sûr que non, je leur répète toujours, mais c'est quand même plus compliqué en hiver qu'à cette période-là de l'année qu'à une autre période de l'année.
Ah, la Bretagne. Bonjour Marie, qu'en pensez-vous de l'argument que mettait en place Amandine, non pas sur la Bretagne, mais sur les cours de tennis et sur la messe? Jean-Marie ne veut plus parler.
Si, je suis là, pardon. Oui. J'ai pas entendu. Excuse-moi.
Non, je disais, qu'en pensez-vous des arguments d'Amandine?
Elle a entièrement raison. Je ne comprends pas pourquoi deux personnes n'ont pas le droit de faire du tennis. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je pratique énormément le VTT. J'ai pas le droit de faire de VTT aujourd'hui. Quand je fais du VTT, je suis seul dans la nature. Il y a personne.
Amandine, est-ce que vous connaissez Jean-Michel Karadec, qui était un merveilleux chanteur et qui est malheureusement décédé?
De nom, non, mais peut-être.
Alors, écoutez cette petite ritournelle que je vous propose.
Du feu, qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut.
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Ça c'était une très jolie chanson. C'était rien que pour
pas
vous.
Pas sûr
Amandine.
Que ça la réconcilie avec la Bretagne. Hein.
Mais Amandine, elle n'est peut-être pas née en Bretagne. C'est pour ça, Amandine.
Et si moi je trouve. Je vais vous faire un compliment sur la Bretagne. Je trouve que c'est une des rares régions de France où il fait beau, même où c'est joli même quand il pleut.
Ah,
je
bon,
trouve.
Bah,
et je suis d'un père qui est corse.
Ah bah oui, effectivement. Mais il y a des, comment dire, il y a des similitudes entre la Bretagne et la Corse. Peut-être pas sur le plan...
Énormément.
Météorologique, mais sur le plan des, comment dire, des esprits, il y a quelque chose de commun. Vous savez que la Bretagne existait avant la France. Souvent, je le dis, mais c'est une réalité. La Bretagne existait avant la France, les amis. Bon, Amandine, merci. Jean-Marie, merci. Grégory...
Je reste
vous
encore
dis pas
un
merci,
peu.
Donc tout de suite, la pub, et puis on avance.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Eh oui, le témoignage d'Amandine Pascal sur du soi-disant mauvais temps en Bretagne fait réagir.
J'ai la malchance d'habiter en Bretagne. On sort une heure, on est sorti une heure ce week-end parce que sinon les week-ends sont merdiques.
Mon cœur de Breton saigne.
Mais quelle pluie, écrit Arwan. Quelle pluie, il fait toujours beau chez nous, la Bretagne. C'est le soleil, l'amour, le partage, lance Gwendal, la plus belle région de France. Lance Thierry sur la page Facebook de l'émission.
L'hiver viendra. C'est le charme de cette émission. On parle de la messe et puis tout d'un coup, on a une auditrice qui nous parle de la Bretagne et ça devient un thème. Ça enflamme les réseaux sociaux. Bernard. Bonjour Bernard, vous habitez Valenciennes.
Oui.
Donc au cœur de la Bretagne.
Exactement. Et ben, il pleut aussi hein, dans le nord. Mais enfin, vous savez, c'est une belle région aussi. Hein, voilà.
Oui, bien, mais toutes les régions sont belles.
Bah, bien sûr. Mais bien sûr.
Bon, pour ou contre les messes.
Alors, on diverge un peu, j'ai l'impression, de notre sujet. Là,
oui, un petit peu. Un petit peu.
Voilà, hein, quand même. Et moi, si vous voulez, je vais pas. Parce que la question, elle n'est pas de savoir si on rouvre la messe, pourquoi. Si on ouvre la messe, pourquoi on va pas ouvrir les cours de tennis? Ça, c'est pas le sujet. Moi, je suis un peu d'accord, hein, mais enfin, non. Doit-on rouvrir la messe, finalement, en public? Bah, moi, je dis bien sûr que oui, voyez-vous, parce que moi, personnellement, je suis catholique, mais je suis agnostique, donc je vais plus à la messe. Mais moi, je suis entouré, mon épouse y va régulièrement, elle chante à l'église, et donc je suis entouré d'un diacre, à ses amis, etc., qui sont mes amis aussi. Et j'ai eu l'occasion de voir, si vous voulez, par exemple, dans l'église à Valenciennes, avant, ils avaient mis des bancs, si vous voulez, dans les bancs, ils avaient mis des croix, et puis ils se sont aperçus que les gens, ils s'asseyaient, l'un à côté de l'autre, si vous voulez. Du coup, ils ont mis que des chaises, avec la distance d'un 50 entre chaque chaise. Alors les gens rentrent, il y a du gel, ils se lavent les mains scrupuleusement. Ensuite, ils mettent leur masque et puis ils participent à la messe. Et bon, voilà. Alors la discussion, si vous voulez, il y a des gens qui disent oui, seulement sur France 2, on peut écouter la messe. Mais moi, j'en discute avec mon épouse ou bien des amis que j'ai. Ils disent ah oui, mais c'est pas pareil. On n'a pas la convivialité. On n'a pas la communion déjà. On n'a pas la convivialité. On n'a pas c'est pas pareil, quoi, si vous voulez. Alors, par contre, il y a des gens qui disent, bah oui, après tout, moi, je t'écoute. Vous voyez, donc, moi, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne rouvrirait pas? Parce que, si vous voulez, il n'y a pas plus de danger, à mon point de vue, et encore, j'y vais pas, donc, vous voyez, il n'y a pas plus de danger d'aller à la messe que d'aller faire ses cours dans une grande surface, quoi.
Ah, il y en a même moins, je pense.
Bah, alors, voilà. Bah,
je pense qu'il y en a même moins. Vu la configuration des églises en France, il y en a même moins.
Alors,
et puis les gens ne bougent pas a priori à la messe, alors que les gens bougent dans un supermarché, ils se mettent d'un côté, donc a priori, et ils sont masqués, donc a priori il n'y a pas beaucoup de risques.
Moi, alors moi j'ai pas la prétention, je connais pas toutes les églises de France, hein, mais
il y en a 46 000.
Oui, donc voilà, je savais pas, oui, j'ai appris quelque chose en écoutant RTL, vous voyez, comme on apprend beaucoup d'ailleurs. Et en fait, non, mais moi je sais, et j'ai des amis donc qui sont mon ami qui est diacre avec son épouse, ils sont fort impliqués dans l'église, quoi, si vous voulez, et je sais qu'ils sont très très scrupuleux et qu'ils font vraiment tout pour que pour que ça se passe bien et puis que les gens ils n'attrapent pas le... Et d'ailleurs il y en a même quelqu'un qui m'a dit, tu te rends compte, si on fait pas attention et si par malheur quelqu'un attraperait le Covid ou qu'il y aurait un cluster à cause de la messe, qu'est-ce qu'on prendrait? Vous voyez.
Eh bien, merci Bernard pour...
Voilà, moi c'est mon point de vue, voilà.
Non, mais
sinon, ouvrir les cours de tennis et puis pouvoir aller faire du VTT, je suis pour.
Non, mais voilà. Je pense qu'effectivement, Bruno Le Maire, de toute façon, a dit qu'il y aurait sans doute une ouverture possible, notamment des petits commerces. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est que a priori, l'épidémie, on a passé le pic de l'épidémie. J'écoutais Sophie Orange ce matin.
J'écoutais RTL ce matin. Excusez-moi, je vous coupe, hein, Pascal, mais j'écoutais RTL ce matin et j'étais levé, voilà, il était 8h moins le quart, etc. Et en fait, si vous voulez, c'était une bonne nouvelle pour un lundi matin, voyez-vous.
Je suis d'accord.
D'entendre pour une fois, oh là là, peut-être le pic, bon, conditionnel, serait derrière nous. Hein, puis après, il y a une interview d'un médecin que vous avez fait qui disait j'avais 4-5 personnes par jour dans mon cabinet, puis maintenant j'en ai 4-5 sur la semaine. Écoutez ça sur RTL, hein, vous voyez. Et puis derrière la chronique de. Comment zut.
Sophie Orange
Comment
C'était Sophie Orange, peut-être.
C'était l'économiste. Zut alors.
François Langlais.
François Langlais, j'avais un trou de mémoire. Oui, qui parlait aussi, si vous voulez, que le gouvernement, il fallait pas trop. Vous l'avez écouté comme moi, je pense. Il disait que attention, il faut pas trop.
Faut faire attention. En tout cas, c'est le message gouvernemental. Merci Bernard. La pub dans une seconde et le flash à 14h. Et dans la deuxième partie, nous continuerons d'évoquer la messe.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
14h à la seconde près. Alexandre de Saint-Aignan, le flash.
Il est bon, mon vaccin. Le laboratoire Moderna annonce un traitement meilleur que celui de Pfizer, un candidat vaccin qui serait efficace contre le coronavirus à près de 95% selon les résultats préliminaires. Il peut être conservé jusqu'à 30 jours au réfrigérateur. Le laboratoire demande aux autorités américaines une autorisation d'utilisation d'urgence. L'épidémie qui progresse de façon inquiétante à travers le monde, mais pour l'instant en France, le gouvernement note une légère amélioration dans les chiffres. Les courbes se stabilisent. Le ministre de la Santé affiche un optimisme prudent et il appelle les Français à poursuivre leurs efforts. Jonathan Daval affirme être le seul coupable du meurtre de sa femme. Son procès s'est ouvert ce matin devant les assises de Vesoul. L'accusé au bord des larmes risque la prison à perpétuité après des mois de mensonges. Il était finalement passé aux aveux. Autre procès qui a commencé aujourd'hui à Paris, cette fois celui de l'attentat raté dans le Thalys en 2015. Un djihadiste lourdement armé qui voulait faire un carnage dans un train entre Bruxelles et Paris. Il avait finalement été maîtrisé par des passagers, notamment par des militaires américains en vacances. Les Bleus privés de Romain Ntamack en rugby. Le demi d'ouverture toulousain est forfait sur blessure alors que le 15 de France doit affronter l'Écosse dimanche prochain en Coupe d'automne des Nations. Il sera remplacé par Louis Carbonel. La météo pour demain, ça va continuer de s'améliorer. Le temps sera plus sec mais encore souvent nuageux. Du beau soleil quand même sur la moitié sud. Les températures pour demain, 12 degrés à Strasbourg. Il fera 13 à Lille, 14 à Paris, 17 degrés du côté de Montpellier.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et à 13h, entre 14h et 14h30 plus exactement, nous allons être avec Vincent Némon, qui est porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Laurent Tessier nous présente notre demi-heure à venir.
Rendez-nous la messe, les catholiques se font entendre, ils étaient plusieurs milliers à se rassembler hier dans le pays, Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Toulouse, Versailles, une mobilisation pour demander la levée de l'interdiction des messes en public imposée pendant le confinement.
Ce qu'on regrette vraiment, c'est que ceux qui nous gouvernent veulent nous gouverner alors qu'ils ne savent pas ce qu'est la messe pour nous. C'est pas un lieu de rassemblement, c'est un lieu dont nous avons besoin.
Ce que je comprends pas, c'est que je suis allé faire mes courses hier dans un magasin de bricolage et il y avait plus de place sur le parking, des gens partout agglutinés devant les caisses, etc. Et qu'aujourd'hui, on peut pas se retrouver dans une église.
Le ministre de l'Intérieur avait averti vendredi qu'il n'hésiterait pas à envoyer des policiers et gendarmes verbaliser les manifestants en cas d'actes répétés et contraires aux lois de la République. Il a remercié dimanche les catholiques pour leurs efforts et leur compréhension. Une rencontre est prévue cet après-midi avec les représentants des cultes. Le Premier ministre Jean Castex participera et on l'entend, la classe politique s'est bien emparée du sujet. Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité hier du Grand Jury sur RTL avec Benjamin Sportouche.
Moi, je souhaite que cette position soit revue. Nous arrivons dans un temps important, notamment pour la communauté chrétienne.
Mais vous souhaitez que ces messes reprennent, si je vous entends bien?
À la condition que les conditions sanitaires soient respectées. Mais je pense qu'on est là sur une liberté fondamentale et que le gouvernement doit y être extrêmement attentif.
Et ça doit s'appliquer à toutes les religions.
Bien sûr.
Même avis pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, invitée de nos confrères de BFM.
Je participais de ceux qui considéraient que les lieux de culte devaient être ouverts pendant le confinement, qu'ils sont en général assez vastes pour permettre le respect des distances, l'exercice du culte, et pour un grand nombre de nos compatriotes, un soutien, et quelle que soit la religion d'ailleurs, un soutien important dans un moment qui est un moment de vive tension, qui est un moment de grande angoisse pour beaucoup.
Et même s'il dit comprendre le désarroi, le secrétaire national Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, défend cette interdiction au nom du principe de responsabilité. Alors, faut-il autoriser les messes ? Est-ce pour vous un besoin vital ? Y a-t-il un risque sanitaire ?
On est capable effectivement de se retrouver dans une église et d'avoir des gestes barrières. Voilà, moi j'avais 18 ans pour le n'ayez pas peur. Bah, c'est resté gravé en moi, donc je n'ai pas peur.
Les lieux de culte restent ouverts. Le recueillement individuel est-il tout simplement suffisant ? Peut-on prier uniquement chez soi ?
La messe, c'est pas une option pour nous. C'est une nécessité.
Faut-il diffuser en visio simplement les cérémonies ? La liberté de culte est-elle bafouée ? Catholique, vous sentez-vous soutenu ?
On aimerait bien que notre clergé nous soutienne un peu plus. Malheureusement, on aimerait bien. Il devrait nous épauler, il devrait même nous encourager, il devrait même être là.
Et ça tombe bien, avec nous en studio, Vincent Némon, le porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Qui vous a écouté, pardonnez-moi, avec beaucoup d'intérêt. Bonjour Monsieur Némon.
Bonjour.
J'allais vous poser précisément la question que pose un auditeur. C'est vrai que vous n'êtes pas très virulent. Par nature, j'ai envie de dire, l'Église de France, vous n'êtes pas des va-t-en-guerre, mais c'est vrai qu'on ne vous entend pas beaucoup manifester et peut-être pas soutenir les fidèles. C'était les fidèles qui étaient sur les parvis hier et on a le sentiment que vous êtes un peu en retrait.
Oui, je comprends très bien qu'on ait ce sentiment et ce que je peux dire, le témoignage que je peux apporter, c'est que les autorités de l'Église, les évêques, la conférence des évêques, a pris le sujet à bras-le-corps et d'abord, elle cherche autant que les fidèles à retourner le plus rapidement possible dans les églises pour la célébration de la messe, entre autres. Mais la voie qui est choisie par les évêques et par la conférence, c'est celle d'un vrai dialogue qui est réel, qui existe avec le gouvernement, avec les autorités de l'État. Et il ne vous a pas échappé il y a une dizaine de jours, c'est même la voie judiciaire, puisque la conférence des évêques et son président en tête, Mgr de Moulin-Beaufort, a déposé un référé liberté devant le Conseil d'État pour contester les mesures d'interdiction des messes dans les églises. Donc la voie choisie pour ce sujet-là, qui est un peu inédite, qui est un peu plus forte que d'habitude, j'entends ce que vous dites, mais cette fois-ci, on peut dire que la voie est plus forte, c'est celle à la fois d'un recours contre les décisions de l'exécutif devant le judiciaire, donc devant le Conseil d'État, et puis c'est à la fois un dialogue permanent qu'il faut entretenir. On est tout à fait conscient d'une chose, c'est que l'ennemi aujourd'hui, pour l'Église catholique, c'est pas l'État. L'ennemi, c'est l'ennemi de tout le monde, c'est le virus. Donc, c'est
vous parlez comme Jean Castex, qui a dit l'autre jour, l'ennemi, ce n'est pas le gouvernement, a-t-il dit, l'ennemi, c'est le virus. Vous parlez exactement comme lui. Et je trouve que le mot ennemi m'avait fait un peu, d'ailleurs...
Nous sommes dans un combat commun.
Sursauter.
Nous sommes dans un combat commun avec nos compatriotes.
Non, mais c'est difficile pour l'Église, parce que vous n'êtes pas des va-t-en-guerre, je le disais tout à l'heure. Mais c'est la deuxième fois, et je vais le redire, ce qui est tout à fait étonnant, et sauf erreur de ma part, c'est la première fois en 2000 ans de christianisme que des messes sont interdites par le pouvoir central. Ce n'est jamais arrivé. Il y a eu parfois la Commune de Paris, je l'ai dit, qui avait interdit des messes, mais c'était un pouvoir local. Mais ni le comité de salut public, ni la Convention, ni les chefs d'État en temps de guerre, ni les rois, ni les empereurs, personne n'a interdit des messes en France.
Alors si on remonte à 1800 ans, si, puisqu'on disait les messes dans les catacombes, parce qu'on n'avait pas le droit de les dire en surface.
Alors il y a 1800 ans, effectivement, j'ai dit sauf erreur de ma part, mais il est possible qu'il y a 1800 ans, mais c'est tout à fait singulier.
Absolument.
Alors vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs, ils vont peut-être pourquoi pas vous reprocher de ne pas être assez offensif sur ce thème. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et donc, nous sommes avec Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Vous pouvez lui poser des questions et pourquoi pas afficher votre désaccord avec lui. Michael, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté Monsieur Némon.
Oui.
Votre sentiment.
Oui, tout à fait. Alors, moi, mon sentiment, il est très clair. Bien entendu, je suis pour la messe. J'aimerais juste deux choses rapidement. Dimanche, par exemple, hier... J'étais avec plusieurs catholiques, parce qu'on a créé une association qui s'appelle FIDE. On était en train de donner à manger lors d'une maraude, et quelle chance qu'on a eu quand on s'est approché de l'église Saint-Laurent et de voir qu'il y avait de l'adoration. Et quand je vous explique cette scène, je vais vous expliquer qu'à travers cette scène, il y a un besoin pour les catholiques et notamment les pratiquants de faire unité, de faire communion. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui m'insupporte, deux choses. La première, c'est celle des pouvoirs publics et de certains journalistes qui tentent de nous expliquer que la messe du dimanche sur France 2 suffit, que on serait, j'ai vu encore ce matin sur certains journaux, qu'on serait une bande de méchants infiltrés par les tradis pendant nos rassemblements sur les parvis. J'étais moi-même hier à Versailles sur le parvis de la cathédrale. Et donc ce sont ces choses-là qui commencent vraiment, je vais être poli, à nous taper sur le système. Et après, oui, bien entendu, en tant que catho, parce que dimanche c'était un peu spécial quand même, on avait le créneau 17h30-19h, et à partir de 17h50, donc 20 minutes après, la police et les ordinateurs nous ont demandé de nous disperser. Donc c'était un peu bizarre. Et ensuite, on a tous eu ce même constat avec les collègues et avec les amis, avec les frères. On a tous eu le collègue de se dire, mais même à Versailles, il y a encore des cathos fébriles. Et c'est vraiment, et derrière ça, je culpabilise un petit peu, et je me dis aussi que le clergé ne fait pas tout son boulot.
Ah ben alors le clergé, effectivement, on vous renvoie.
Moi, j'aurais rêvé ça, hier d'arriver, de voir l'évêque sur les marches de Versailles, être en soutien à sa communauté, parce qu'il est quand même le pasteur de nous, de fidèles. Donc moi, je trouve que le clergé est très fébrile aujourd'hui sur les réseaux sociaux et pour échanger avec différents prêtres, aumôniers et diacres. Je n'arrive pas à comprendre ni même à concevoir que des hommes d'église puissent condamner la présence de fidèles cathos sur ces parvis. On en vient à avoir des textes où on est accusé de mauvais citoyens. Pire,
c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prier. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On n'a pas le droit de prier en
public. Si, c'est sûr que si. On n'a pas de prier en public.
Des prières de rue.
Mais les prières de rue sont absolument pas interdites. Nulle part il est noté dans la loi et la Constitution que la prière de rue, prière dans la rue, d'ailleurs je préfère le mot,
oui,
est interdite. Le seul critère, c'est le trouble à l'ordre public.
Bah, la prière dans la rue, il y a discussion quand même, si vous me permettez.
Il peut y avoir discussion si elle trouble l'ordre public, mais si elle ne le trouble pas.
Parce que hier, j'ai entendu à Saint-Sulpice une représentante de l'Église catholique qui précisément prenait son haut-parleur pour dire attention. Et elle parlait aux fidèles et elle demandait de ne pas prier précisément.
Non, je suis formel. Excusez-moi. Oui, allez-y. Pardon.
Excusez-moi. Vous vous rendez compte? On en vient à ça, c'est-à-dire qu'on en vient même à ce que des dirigeants, des personnes qui ont un aura au sein de l'Église catholique de France en viennent à faire le discours, excusez-moi, de certains laïcars au niveau national.
Ben, Monsieur Némon va vous répondre. Il est là pour ça.
Merci beaucoup de ce que vous dites, parce que je comprends très bien votre incompréhension, si je peux dire. Alors d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de prêtres qui se sont mêlés à ces manifestations. Il faut le dire. Je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, si je me permets, juste le début de votre intervention, vous avez parlé de maraude que vous étiez en train de faire et que vous êtes rentré dans une église pour l'adoration. Donc, vous me donnez l'occasion de dire que l'église et la pratique religieuse, c'est pas que la messe, ce n'est pas que ce qui se passe dans les églises, et que la dimension de charité que vous mettez en œuvre vous-même, vous l'avez avoué au début de votre intervention, elle est essentielle. C'est une parenthèse. Ce que je tiens à dire, c'est que nous pensons, les évêques pensent que la voie de la manifestation aujourd'hui pour ce sujet n'est pas celle qui fera aboutir le sujet. Ce qui est intéressant dans ces manifestations, et là où je crois que vous avez un entier soutien de l'ensemble de l'Église, c'est que elle manifeste le besoin vital pour beaucoup de catholiques pratiquants de vivre la messe en communauté. Et ça, c'est absolument précieux, et je pense que j'ai le sentiment que les autorités publiques ont entendu à travers ces manifestations ce besoin. Maintenant, ce que nous pensons, et la raison pour laquelle les évêques n'ont pas promu ces manifestations, attention, elles n'ont pas du tout été condamnées, s'il y a une petite différence. Pourquoi elles n'ont pas promu? Parce que.
À moins des choses qu'elles n'aient pas été condamnées, quand même.
Non, voilà, non, parce que monsieur disait qu'elles avaient été condamnées. Elles n'ont pas été condamnées.
Mais c'est vrai qu'on ne vous trouve pas très présent.
Non, parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne voie. Si vous voulez, la manifestation, vous vous souvenez, Monsieur Castex, dans son premier discours sur le deuxième confinement, a tenu à préciser que le droit de manifestation était maintenu. C'était important de le dire. Et donc, il est important qu'on puisse manifester. Si la manifestation est autorisée, c'est très bien. Mais pourquoi on manifeste? On manifeste pour dire à quel point la messe est importante pour nous, les catholiques. On manifeste pas tellement pour que le gouvernement change d'avis. Parce que ça, enfin, je vais pas dire on s'en occupe, mais ça, c'est l'objet de concertations qui sont serrées et qui sont vraiment fructueuses. Et je pense qu'on va déboucher. Donc, moi, j'ai confiance, si vous voulez, dans les autorités de l'État qui aujourd'hui nous disent. Parce que c'est
et l'interlocuteur, c'est qui? C'est le ministre des cultes.
C'est le ministre des cultes et c'est, enfin, donc le ministre de l'Intérieur.
Gérald Darmanin.
Et le Premier ministre, puisque cet après-midi, il a un rendez-vous avec le Premier ministre.
Et vous avez un rendez-vous possible donc cet après-midi, mais vous avez une date d'ouverture
On l'a pas encore. Une date de réouverture des cultes?
Oui.
Public? Non, on l'a pas encore, mais on a entendu le Premier ministre dire jeudi dernier qu'il y avait un statu quo jusqu'au 1er décembre. Pour l'ensemble.
Donc, est-ce que le 1er décembre, les messes seront autorisées en France?
C'est ce que nous espérons. Alors, ce que nous disons, et là où je rejoins notre interlocuteur, c'est Laurent, je crois, c'était que ce que nous espérons, ce que nous disons, c'est que nous sommes capables, dans les conditions sanitaires difficiles que nous vivons aujourd'hui, nous sommes capables de rétablir la messe en public, et nous l'avons prouvé. Du premier déconfinement. Donc c'est là où je vous rejoins. Mais sauf que la voie pour le dire, qu'on trouve la plus utile,
nous avons compris la petite différence. Merci Mickaël, et vous étiez à Versailles hier. Il y a quelque chose sur lequel on va revenir tout de suite après la publicité, et ça c'est vrai aussi, et Mickaël le disait, il y a une manière parfois de stigmatiser, moi qui m'agace, les catholiques, et de les présenter comme des ultra-tradis, ceux qui étaient devant les parvis et devant les églises hier. Et ça a le don de m'énerver parce que ce n'est pas la réalité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je crois que c'est la première fois dans Les auditeurs ont la parole qu'on écoutera la musique de Giovanni Pierluigi de Palestrina. Et c'est la messe du pape Marcel qui date de 1562. Et qu'un très joli moment de musique. Nous sommes avec Maria. Bonjour Maria, vous habitez Châteauroux.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous êtes
bonjour
catholique pratiquante, c'est important de le préciser pour notre débat.
Je suis catholique, mais pas pratiquante, non.
Ah,
je
pardonnez-moi.
Je ne fréquente les églises que pour les enterrements, les mariages, et si on m'invite pour les baptêmes. Voilà, je ne pratique plus du tout depuis quelques années, mais ça m'empêche pas d'avoir mon opinion là-dessus. Moi, si j'ai besoin de parler à Dieu, je lui parle en direct. J'ai pas besoin de passer par un intermédiaire.
Vous avez de la chance si vous lui parlez en direct. Voilà. N'hésitez pas à nous donner sa ligne.
Si on croit,
c'est
si
le 30-10.
Bref. J'intervenais surtout, pour dire comme un de vos auditeurs précédents que, effectivement, il y a le Jour du Seigneur qui existe, qui permet à toutes les personnes dans le monde rural dont je suis, j'habite un village à 30 km de Châteauroux où on n'est que 200 habitants. La messe, elle a lieu qu'une fois pour les mariages, les enterrements, et une fois par an à Noël. Une fois tous les deux ans à Noël, voilà. Et que si il y a des fidèles qui demandent au curé de venir faire une messe pour mettre du souvenir des défunts et tout ce qui s'en suit, voilà. Donc nous, les messes en monde rural, c'est au chagrin. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas de véhicule, donc ils suivent la messe au cours du Seigneur. Il me semble, que votre interlocuteur pourra le confirmer, il me semble qu'il y a possibilité de récupérer des hosties auprès du presbytère, comme les bougies, pour pouvoir pratiquer l'Eucharistie à distance. On demande à nos enfants de faire du distanciel de plus en plus. On demande aux gens de faire du télétravail. On demande aux gens de rester dans des groupes de moins de 6 personnes et on voudrait autoriser des messes où il y a plus de 30 personnes. Excusez-moi, mais là, je ne comprends pas. Donc, il faut un petit peu arrêter d'être un petit peu égoïste, de penser qu'à soi. Penser surtout à sauver des vies. Parce que quand je vois le comportement de certaines personnes dans le secteur, ça me répile. Je vois des chasses quasiment tous les week-ends avec des repas, des gueuletons derrière et puis des clusters qui naissent. J'ai aperçu un enterrement où il y avait plus de 50 voitures. Donc, il devait y avoir au moins 50 personnes. Bon, c'était avant le confinement, mais bon, voilà.
Si c'était avant le confinement, c'est autre chose,
oui,
forcément.
Oui, mais enfin, le cluster a été fait quand même. C'était avant le confinement, mais malheureusement, il y avait quelqu'un qui était sur place.
Si les gens sont masqués et respectent les gestes barrières, il n'y a pas forcément...
Quand vous êtes le mari de la défunte et que vous pleurez ou vous reniflez et compagnie, vous avez beau essayer de faire les gestes barrières, votre masque, forcément, qui n'est plus en état de faire les gestes barrières. Et donc, je connais...
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est la solution que vous proposez?
La solution, c'est on est en période de crise.
Donc vous ne faites pas de messe d'enterrement?
Les messes d'enterrement, vous pouvez les faire, mais maintenant c'est limité à 30 personnes.
Bon, comme en plus la liaison s'est un peu détériorée, on ne vous entend pas très bien sur les derniers mots, M. Némon va pouvoir répondre à ce que vous disiez.
Oui, merci chère madame, c'est ce que vous dites est intéressant. D'abord, vous exprimez le problème de beaucoup de catholiques, pratiquants ou non, qui sont dans le monde rural et qui ont des difficultés à être servis par l'Église. Je pense que c'est un point qui date de bien avant le confinement et qui est une vraie préoccupation pour l'ensemble de l'Église. Ce que vous dites sur la messe du jour du Seigneur, c'est une excellente émission, c'est une des plus vieilles émissions du PAF, hein, quand même, il faut le savoir, 70 ans d'existence. C'est une, comme toutes les autres messes qu'on voit sur les écrans qui sont filmées, donc c'est une manière pour l'internaute ou pour le téléspectateur de voir que la messe est dite, mais ce n'est pas une manière d'y participer. Donc, on ne peut pas se satisfaire d'avoir une messe à son écran, sur son écran, et considérer qu'on y a participé. Pourquoi ? Parce que, c'est assez simple, la messe, c'est un moment qui doit être vécu en communauté, et je dirais presque qui doit réunir les trois principes du théâtre, vous savez, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Il faut que, pour véritablement participer à la messe, il faut y être. Parce que les fidèles, le laïc de base que je suis quand je suis à la messe, eh bien en fait, je concélèbre, je participe à la célébration. Donc, la messe télévisée, c'est une formidable proposition, mais ce n'est qu'un pis-aller pour ceux qui ne peuvent pas avoir, comme vous par exemple, la messe près de chez eux. Quant au click and collect, parce que on a ces propositions dans pas mal de paroisses de France, c'est-à-dire on propose aux catholiques de venir chercher l'hostie consacrée, c'est-à-dire le corps du Christ. Là encore, c'est un pis-aller.
Oui, je pense qu'on serait sur du gadget. En revanche, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une application pour la quête.
Oui,
j'ai appris ça.
Oui, absolument.
Donc, les fidèles, vous perdez pas le nord,
ben
si
non.
Vous me permettez l'Église de France, puisque les fidèles ne peuvent pas aller à la messe et donc participer à la quête, mais il y a une application.
Oui, laquette.catholique.fr, si vous me permettez de rappeler l'adresse.
Je vous en cher monsieur. Prie.
Non, il y a une application pour la quête qui existe depuis longtemps, qui existait même avant le confinement.
D'accord.
Qui permet de
elle
a été donner
renoncée.
Directement. Oui. Et vous savez, c'est quand même, l'air de rien, 60 millions d'euros qui ont été perdus quand même pendant le premier confinement. Parce que,
c'est 60 millions la
oui,
quête
parce que les ressources qui sont...
Non.
Mais si, la quête, les offrandes de messe et les casuels. Il y a trois
en combien
ressources
de temps, 60
en
deux
mois,
mois
en trois mois, oui.
Donc l'Église collecte 20 millions d'euros par la quête chaque mois.
Absolument. C'est-à-dire issu directement des paroisses.
Sidérez.
Voilà. Et donc,
parce
voyez,
qu'il y a 45 000 églises.
Il y a 45 000 églises, mais il n'y a pas 45 000 messes par, ouais. par week-end. Mais
il y a
de
combien
fait,
de messes par week-end?
Écoutez, on pense qu'il y en a à peu près 20 000.
Ah oui.
Voilà. Et donc voilà, ça fait un gros manque à gagner. Et comme. Il faut en profiter pour dire que l'Église n'est pas riche. Hein. L'Église, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est en France, en tout cas, elle n'est pas
plus.
Riche. Oui, depuis longtemps, hein. Depuis un bon bout de temps.
Elle ne l'est plus.
Et donc, elle compte sur cette participation des fidèles, évidemment.
Bon, la publicité, et puis on va conclure. On sera avec Flavie Flamand également dans une seconde. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.